Chapitre 11. Découverte d'une ville et d'un phare. Sérieux projet d'évasion. Châtiment réservé aux voleurs. Ce ne serait pas la peine de prendre la plume si on avait à raconter des tas d'aventures surprenantes. Tout ce qui précède n'est rien auprès des événements qui vont arriver. Il faisait nuit. La première chose qui frappa nos regards quand je soulevai le panneau, ce fut un fouillis de lumières éparpillées dans le lointain. Cela me rappelait un peu le spectacle de Saint-Servan, autrefois, les soirs où je montais à mon belvédère pour regarder la flottille de la morue. Ma première idée fut qu'il y avait là-bas, par tribord, un grand rassemblement de bateaux pêcheurs. Mais au-dessus de tout cela, une lueur rougeâtre apparut, et j'avais vu trop souvent le feu tournant du cap Fréhel, qui est à 7 lieues de Saint-Malo, pour ne pas reconnaître un phare. « Nous voilà arrivés, » me dit Jean, dès que sa tête eut dépassé le panneau. « Allons, tant mieux. Les Américains sont forts pour semer les phares, car rien ne leur coûte tant l'argent est commun dans ces pays-là. Je comprends que Christophe Colomb dut être ému la première fois qu'il vit ces côtes, puisque moi je me sens tout chose à l'aspect du Nouveau Monde. Tu sais, en perçant un trou de vrille à travers la terre entière, nous rencontrerions maintenant la jeune Émilie, où il y a des gens qui pensent à nous, bien sûr. Je ne vais pas m'arrêter à ce que le calcul de Jean avait évidemment erroné, eu égard au point du globe qui représente les antipodes du sillon de Saint-Malo. Des personnes qui s'y connaissent m'ont dit que c'était quelque part dans l'Océanie, entre la terre de Diemen et la Nouvelle-Zélande. Mais ça ne fait rien. Ce qui me mit en défiance, ce fut l'idée d'avoir fait tant de chemin en si peu de temps. Et je posai plusieurs objections. Mais Jean me ferma la bouche par cette réponse péremptoire. « À quoi bon se débattre ?» me dit-il. « Puisque nous sommes en Amérique, il nous a bien fallu le temps de faire la traversée. » Je ne vis rien à répliquer. D'ailleurs, mon attention était éveillée par des objets moins éloignés que le phare et les illuminations qui se montraient à travers la galerie du bastingage de l'avant. Sur le navire même, à l'arrière et tout près de nous, les hommes de quart, à savoir le crépu Abraham et ses deux tenants, causaient avec Cornille le timonier. De ce qu'il disait, nous ne comprenions pas un mot, mais au premier regard que nous jetâmes sur eux, Jean me pinça le bras et me dit « Ils complotent, cela augmente de beaucoup nos dangers, car il va y avoir sous peu et peut-être cette nuit même une épouvantable boucherie à bord. »« Tant mieux, » répartis-je, « nous profiterons de leurs dissensions intestines et nous resterons les maîtres du navire. » Jean ne fut pas de mon avis. « Quand Monsieur Surcouf, me répondit-il, amarina le brick anglais sur les brasses du Bengale, nous étions en temps de guerre et il put ramener sa prise qui lui appartenait de droit. Mais aujourd'hui, les circonstances sont bien différentes. La France est malheureusement en paix avec les Pays-Bas. « On se fait pirate alors ? » interrompis-je. « Tu es toujours embarrassé. » « Ce n'est pas un bon état, » répartit Jean. « Et d'ailleurs, nous ne sommes pas assez de deux pour nous faire pirates, outre que nous n'avons pas de canon, car les deux pierriers sont des baquets. Un pirate sans canon, c'est encore du propre. Et puis, est-ce que tu aimerais massacrer des marins marchands à la journée, toi, Corentin ?»« Ma foi, non, » dis-je. « Je ne suis pas sanguinaire, j'ai parlé sans réflexion. » Revenons à notre idée de prendre la chaloupe. « Attendons, » fit Jean. « Regardons auparavant la question à l'endroit et à l'envers. Mais où diable ces coquins-là peuvent-ils fourrer tout ce qu'ils avalent ?» En complotant, Abraham et ses affidés mangeaient et buvaient sans autre arrêt que le temps de lâcher ça et là un petit nartar, mère Michel. « Je sais bien, » reprit Jean, « qu'il y a un autre point de vue. » Ce serait de ramener tout simplement la gabarre en Hollande à ses armateurs quand nous l'aurons prise. Mais s'ils allaient nous accuser d'avoir fait nous-mêmes la fin de l'équipage. « Dame, » répondis-je, « pour se dispenser de nous payer la récompense honnête qu'ils nous devraient, ce ne serait pas encore impossible. » Il faut tout prévoir, pas vrai? Je donnerai 10 sous pour entendre ce qu'il marmotte. Cornille a l'air d'avoir sommeil.
Cornille a toujours sommeil. S'il reste là tous les trois, ce ne sera pas facile de s'emparer de la chaloupe.
Ils ne resteront pas là. Les partisans de Klotz vont prendre le quart de nuit. Pour en revenir aux armateurs, la Hollande est tout au fond de l'Europe et, par conséquent, très loin d'ici. Nous aurions trop de mal à manœuvrer cette carcasse rasée. Mais d'un autre côté, pour partir sans biscuit dans la chaloupe, merci, je demande à réfléchir.
Je suppose que vous n'êtes pas sans remarquer que Jean se donnait de plus en plus avec moi des airs d'importance et qu'il tenait le haut bout de la délibération.
Ça tombe sous le sens, répondis-je en essayant de rattraper mon rang. Je ne grille pas non plus de l'envie de mourir de faim en pleine mer.
Toi, toi, toujours toi, fit-il en hochant la tête.
On verra comment tu te patineras quand nous allons être dans le canot, obligés de ramer pendant 3 ou 4 jours sans se reposer. Tâte-toi bien avant de sauter le pas, car après, il n'y aura plus à revenir.
Je retins ma langue, mais je pensais. On va voir, en effet, mon cousin piteux. Nous serons seuls tous deux, et je ne suis pas embarrassé de savoir qui sera le maître. L'affaire de la pompe m'avait mis du plomb dans la tête, et je me croyais désormais à l'épreuve des tours de coquin. Il y eut un mouvement à l'arrière. C'était Klotz qui venait avec les 2 matelots de sa bordée, Peters et Janssen, prendre le quart de nuit. Abraham et Simirmidon s'en allèrent. C'est à peine si quelques tahar-mahar furent échangés entre les 2 factions ennemies et un couple de « Ouah !»«
Tu vas voir, » me dit Jean, « que ceux-là vont retourner le navire bout pour bout. »
Il parlait encore que la roue de Cornille mangea la moitié du compas, pendant que Klotz, grimpé à la hune, faisait sauter de droite à gauche l'écoute de la petite voile. Il en résulta qu'après un instant, la gabarre vira péniblement lof pour lof, montrant désormais le phare et les chandelles à l'arrière par bâbord.
« Hein ? » fit Jean. « Qu'est-ce que je t'annonçais ?»«
Tu es un fier sorcier, » répondis-je en ricanant. Jean ne s'aperçut même pas que je me moquais de lui. Il continua.
« Maintenant, ils vont dévorer la soupe comme s'ils étaient à jeun depuis 15 jours, et boire, et reboire, et dormir. » Convenons de nos faits. Dans 1 demi-heure, nous pouvons être en route pour cette côte où il y a tant de lumignons. Ça me donne envie, moi. La ville du monde où il y a le plus de lanternes, c'est Pékin. Mais sûrement, nous ne sommes pas encore en Chine.
J'aurais voulu riposter par quelque chose de frappant, et j'avais bien idée que la Chine ne faisait pas partie de l'Amérique, mais je n'en étais pas assez certain. Je me tus.
« Veux-tu délibérer sérieusement ?» me demanda Jean.
« Je t'écoute, » répondis-je d'un ton rogue. « Propose, je déciderai. »«
Eh bien voilà, il faut nous dépêcher, parce que la gabarre s'éloigne maintenant de la côte et que c'est autant de chemins de perdu. Heureusement qu'elle ne va pas vite. Supposons, pour prendre les choses au pire, que nous ayons des vents très mauvais et des courants contraires. » Nous ne pouvons pas mettre plus de 4 jours à gagner la côte.
4 jours ? M'écriai-je. Nous sommes tout près de terre, et je me charge d'y aborder en 2 heures.
Ta 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 ! Je ne me risque pas à moins d'avoir du biscuit et de la viande pour 4 jours, c'est réglé. D'abord, si nous tombions sur un rivage désert.
Et qui donc aurait allumé tous ces lampions ? Demandai-je.
Ça peut être, me répondit-il. Des feux follets ou des vers luisants, plus conséquents que ceux de l'ancien monde.
Et le phare?
Ça peut être un volcan qui travaille. Dans des pays pareils, on ne sait jamais au juste.
Je ne l'aurais pas cru si vert à la réplique.
Dame, fis-je, tu m'en diras tant.
Mais comment faire pour avoir du pain et de la viande pour 4 jours?
Et de l'eau, c'est le principal.
Et du squidam?
« Un petit peu, mais pas beaucoup, parce que tu es porté sur ton bec. »«
Je te conseille de parler, mais enfin, comment faire ?»«
Le genièvre est ici, en bas. »
Je ne le laissais pas achever. Rien qu'à penser à notre trou d'en bas, m'écriai-je, j'aimerais mieux m'embarquer sans rien. Isidore est enragé maintenant, écoute plutôt. La pauvre bête, en effet, devait avoir le délire, car elle menait un tapage infernal. Jean continua. Pendant que tu étais évanoui hier et que les autres ronflaient, j'ai rôdé pas mal ici et là dans le navire. Personne ne me gênait. Je sais où ils mettent toutes leurs affaires. Le cornil dort déjà, vois plutôt. Dès que les trois autres sacs à nourriture vont être assoupis, nous sortirons sur le pont que nous traverserons bien doucement pour gagner le grand panneau et je te conduirai au biscuit. Bon, et toi, tu iras à la viande ? Non, ce sera encore toi. Il y a un carré de bœuf de Hambourg qui flaire comme baume et un jambon fumé. Un amour, ça nous suffira. Dire que le jambon et le bœuf n'éveillaient pas en moi des idées de concupiscence, ce serait mentir. Et pourtant je demandais, pourquoi est-ce à moi d'emporter tout cela ? Parce que je serais chargée d'autre chose. De quoi ? De l'eau d'abord. Sur mer comme dans les déserts de l'Arabie, c'est le tourment de la soif qui est le plus dur à supporter. Ensuite, la pacotille que j'avais ôtée d'autour de moi pendant que j'avais le mal de mer dans le riz m'étouffait. J'ai été la rechercher hier, je l'ai trouvée et, comme feu Mignaras n'a plus besoin de son coffre, je l'ai mise dedans. Ah, il y a fameusement de bonnes machines dans le coffre de Mignaras. Il s'arrêta. Sa voix était toute changée. Y a-t-il de l'argent ? Demandai-je. Pas mal, et Mignaras n'en a plus besoin pour sûr au fond de l'eau. C'était une occasion de ressaisir ma supériorité. Tu sauras, dis-je avec chaleur, que si tu volais seulement un liard coupé en quatre, je te renierais pour mon cousin. Ah, mais ! Jean me répondit paisiblement. De voler, ça ne me va pas plus qu'à toi, c'est péché. Et puis la gendarmerie vous pince un jour ou l'autre par suite du doigt de Dieu. Mais tu sais bien que dans les histoires de Papa Quimper, ce n'était jamais volé que de chiper du tabac, de la liqueur ou n'importe quoi qui appartient aux Anglais ou aux commissaires.
Parbleu, fis-je, tout le monde connaît ça.
J'ai donc mis de côté, continua Jean, auprès de la pacotille, les boucles d'oreilles de Mignaras, son briquet, sa blague en cuivre miraudé, et tous les boutons de sa veste, et encore 6 bouteilles dorées où il y a de l'anisette.
Gourmand,
pas pour la boire, c'est pour séduire les naturels.
Quels naturels ?
Ceux de ce pays là-bas, où sont les lanternes, et même ceux qui habitent dans les déserts des alentours. Fais bien attention que je suis 2 fois plus honnête que toi. Prendre de l'argent, jamais. Autrement que par le commerce ou la guerre. Eh bien, ici, on est à la guerre. Veux-tu comprendre à la fin qu'avec tout ce butin-là qui nous appartient légitimement, j'en aurai assez à porter pour ma part. Et même, tu prendras encore l'eau avec le biscuit et la viande. Tiens, voilà Isidore qui ne bouge plus en bas, mais il sent encore. C'était vrai. Notre malheureux et trop odorant compagnon avait cessé de souffrir. Il n'eut pas d'autre oraison funèbre. Jean continua, saisi par cette fièvre qui le prenait chaque fois qu'il était question de la pacotille. « Je suppose que la ville où sont les chandelles soit civilisée et qu'on y connaisse la mercerie. Ça ne m'embarrassera pas, au contraire. Je ferai la place, c'est mon talent. J'irai dans les maisons, je dirai qu'on n'a jamais vu des aiguilles pareilles, ni du fil qui vaille la 100e partie d'une autre, étant de Saint-Malo. Et d'ailleurs, on sort de la ville, parbleu. Si elle est trop futée, on va à la campagne et on marche jusqu'à ce qu'on trouve les naturels, les vrais, tatoués, simples et sans artifice. On les rassemble dans une clairière de la forêt vierge, on leur fait comprendre par signe l'utilité de la mercerie et s'ils ne veulent entendre à rien, on les chatouille avec de l'anisette. Pour une aiguille, la première sauvagesse venue te flanque une perle fine dont elle ne soupçonne pas la valeur. Pour un bout de fil, plein le creux de ta main de poudre d'or. Tu penses si cela monte vite. Dès qu'on est assez à son aise pour acheter un cheval ou un chameau, on commence à accepter les dents d'éléphant, les peaux de tigre et la cannelle. À la suite de quoi on se procure des esclaves pour faire le gros ouvrage et combattre les serpents. Oui, dis-je, mais si les serpents viennent avant qu'on ait les esclaves ?
On apprend l'art de les charmer, répliqua Jean. Ou bien on les endort par la fumée de plantes narcotiques très abondantes dans la contrée. Dépêchons-nous de partir. Nous voguons vers le pays de l'or et des richesses et nous nous retirons après fortune faite pour revenir à Saint-Malo, épouser Fanchette.
Figurez-vous bien que c'était juste mon idée. Je serrai vigoureusement la main de Jean et je lui dis « C'est cela, tu seras garçon d'honneur à mes noces, si je suis content de toi. » Il se mit à ricaner d'une façon qui ne me plut pas, mais il ne répondit rien. Comment expliquer cela ? Mon mépris pour lui ne diminuait point et la bonne opinion que j'avais de moi-même restait intacte. Mais le sentiment de mon immense supériorité sur lui branlait un peu dans le manche. Je me souviens que je pensais « Le matin est rusé, il faudra ouvrir l'œil et je serai peut-être obligé de le noyer par prudence. Espérons que non. » Du moins, j'attendrai à la dernière extrémité. Comme la veille, le clair de lune était magnifique, quoiqu'une brume basse commençât à s'étendre sur l'eau, dont elle semblait calmer peu à peu les vastes balancements. Cornille, le timonier, dormait, serrant dans ses bras les montants de sa roue. Tout près de lui, Peter et Jansen, las avalés, s'étaient assoupis la tête sur leurs genoux, ayant entre eux la gamelle vide. Un peu en avant, Klotz, étendu sur le dos tout de son long, ronflait à grand bruit. On voyait tout cela comme en plein jour de l'endroit où nous étions, toujours en haut de notre échelle et regardant par l'entrebâillement du panneau.
« Avec d'autres, cette lune-là serait bien mal commode, » fit observer Jean. « Mais ceux-là, un coup de canon ne les éveillerait pas. Tire tout de même tes souliers et ne faisons pas de bruit. »
Il me donna l'exemple en se déchaussant. Mais ce fut moi qui me glissai le premier sur le pont par la trappe à demi soulevée. J'étais bien aise de prendre ainsi la tête de l'expédition. Cela convenait à mon rang. Tout d'abord, nous nous assurâmes que nos quatre tirants étaient bien et dûment passés à l'état de souche. Puis, Jean se mit à ramper vers la grande écoutille où il me fit descendre toujours le premier. J'étais le maître à la condition de faire ce qu'il voulait. Et en somme, il n'en pouvait guère être autrement, puisque lui seul savait à peu près son chemin. Grâce à lui, j'eus le jambon, la pièce de bœuf et le biscuit, plus la dame Jeanne pleine d'eau.
« Je t'aiderai, » me dit-il, « quand j'aurai mes affaires. Reste là, je vais revenir. »
Il me quitta en bas de la grande échelle, tout près de la soute au riz où nous nous étions d'abord réfugiés lors de notre arrivée, pour nous cacher dans le prétendu sel destiné aux morues que devait pêcher la Marie-Pauline. Que d'événements depuis ce soir-là ! D'où j'étais, j'entendais ronfler, non loin de moi, Abraham et s'aborder. Il me semblait qu'Abraham ne tenait pas si dur que les deux autres, mais quant à cela, quel canon ! Bien sûr qu'il y a quelque chose à l'intérieur des narines hollandaises pour leur communiquer cette sonorité inconnue aux trompes des autres pachydermes. À part cette musique, on entendait d'autres bruits que les craquements de la coque qui semblait geindre encore, toute courbaturée qu'elle était par la tempête. L'absence de Jean fut très longue à mon gré. Quand il reparut enfin, sortant de la cabine de feu Minyahas, il pliait positivement sous le poids de son butin.
« Que diable nous apportes-tu là ? m'écriai-je. « Tais-toi ! répondit-il. « Le meilleur est resté. Ah, si nous avions nos esclaves noirs et notre chameau !»
Je ne voudrais pas dire que la morale de Saint-Malo soit différente des autres morales, mais nous sortions, Jean et moi, de la maison veuve Élie, père, fils, neveu et compagnie, qui avait une manière à elle de comprendre la probité. Je l'ai déjà suffisamment spécifié. Ensuite, comme Jean me le dit avec raison, nous avions travaillé à la pompe et épluché les carottes, ce pourquoi nous méritions un salaire. Qu'en pensez-vous ? Peut-être d'ailleurs Minyahas n'avait-il point d'héritier, et quand les prisonniers de guerre s'échappent des griffes de leurs oppresseurs, il leur est bien permis d'emporter des souvenirs. Outre les 6 bouteilles dorées et les petits meubles à l'usage particulier du défunt, Jean s'était chargé de vêtements, de couvertures, de linge, de casquettes et deux grosses paires de bottes lui pendaient au cou. Tout ça peut nous être bien utile dans nos expéditions à travers les forêts impénétrables, me dit-il. Et si tu savais tout ce que j'ai été obligé de laisser ? Il en avait la larme à l'œil. Prends-moi une paire de bottes, ajouta-t-il. On peut trouver des caciques qui payeraient ça au poids des pierres précieuses.
Mais malheureux, objectai-je. S'il faut nous affaler le long de la mare pour embarquer dans la chaloupe, comment veux-tu ?
Il m'interrompit, disant. Bah, bah, emportons toujours. S'il le faut, on fera plusieurs voyages.
Quand nous arrivâmes sur le pont, le niveau de la brume avait monté notablement. On n'apercevait plus ni le phare, ni les lumières de la côte. Jean ne put pas se frotter les mains car il les avait pleines, mais il dit joyeusement
« Hé, Corentin, est-ce de la chance ? Ce brouillard-là vient à point pour nous couvrir. Scélérate d'anisette, fait-elle du bruit ?»
Il s'était arrimé les 6 bouteilles dorées autour du cou et à chaque mouvement qu'il essayait, elles se choquaient comme des castagnettes. Je lui conseillais de les laisser dans un coin.
« Laissez, laissez » gronda-t-il. « Et si le roi aime justement le doux ?»
Nous allâmes charger tous les deux comme des mulets dans la direction de l'arrière. La brume s'épaississait avec une rapidité extraordinaire. Au bout de 10 pas, nous ne voyions plus où nous mettions les pieds. Cela n'empêchait pas Jean d'accrocher tout autour de mes épaules les objets dont il jugeait bon de se débarrasser. Je ressemblais à un porte-manteau.
« Tâte voir si tu trouves le panneau de notre ancien trou, » me dit-il. « Ça nous indiquera notre route. »
Je tâtais, mais je ne trouvais rien. Heureusement, une de ces explosions qui coupent le sommeil des ronfleurs se fit entendre derrière nous. Sans cela, nous nous égarions vers l'avant.
« C'est Klotz, » dis-je, « et j'ai bien peur qu'il ne soit réveillé du coup. »« Tiens-toi quoi ?» répliqua Jean. « Attendons un peu, ce n'est pas le temps qui nous manque jusqu'à demain matin. »
Au bout d'une demi-minute, Klotz ronflait de nouveau à grand orchestre. Nous nous orientâmes au moyen de ce bruit qui rompait seul le grand silence, car le brouillard avait passé comme un rouleau sur la mer qui était maintenant immobile. Pendant que nous attendions, Jean me dit, et sa voix était fort altérée,
« Nous ne serons pas à notre aise dans la chaloupe au milieu de cette brume où l'on y voit goutte. »«
Bah, au petit bonheur, comme dit maman. » Jean ne répondit pas, mais je l'entendais qui grommelait.
« Quand on est comme ça une fois dans les aventures, on ne sait plus. Il y a des moments où Saint-Malo me semble là derrière nous, loin comme de la buvette à la tour Solidor. Et dans d'autres moments, je jurerais que nous sommes partis depuis plus d'un mois, peut-être 2. C'est comme le phare et les lumières de la côte. Es-tu bien sûr d'avoir vu tout ça, toi ?
Ah, par exemple, commençai-je.
Bon, bon, tu vas me dire qu'avant le brouillard, ces choses-là étaient devant nos yeux. Eh bien, moi, je me demande si j'ai vu ou si je n'ai pas vu. Dans les aventures, il y a un tas de chimères et d'attrapes. Avance un peu, ils dorment.
Je ne m'attendais pas à cette vaillante conclusion. J'aurais été bien aise de la reculade de Jean qui m'aurait permis de vanter ma propre bravoure, tout en restant sur la gabarre, où je me trouvais étonnamment bien pour le moment, depuis la venue du brouillard. Cette expédition dans la chaloupe ne me promettait rien de bon.
« Alors, tu es décidé ? » fis-je. « Et toi ? » ?»«
Moi, rien ne m'arrête jamais. » Il eut son ricanement hostile et dit
« En route !»
Pour garder mon rang, je marchais le premier et même je sifflotais un petit air de chez nous. Mais le diable n'y perdait rien. La musique nasale de Klotz suffisait parfaitement à nous guider. Nous prîmes à droite de lui pour gagner le plat-bord que nous suivîmes jusqu'à l'arrière. Là, nous étions tout près des 4 dormeurs. Et il y eut un moment où je distinguais la figure du Cornil qui avait l'air d'un géant assoupi dans le brouillard.
« Trouves-tu la mare de la chaloupe ?»
me demanda tout bas Jean qui me suivait en rampant et dont les dents claquaient.
« Je l'ai dans la main, » répondis-je.
Cet amarre était noué tout uniment à la galerie parce qu'on avait enlevé l'anneau ou œillet de traîne en réparant le gouvernail. Jean me rejoignit.
« C'est drôle comme la mer est morte, » dit-il.
«
Est-ce bon signe, ça? La voudrais-tu enragée? Ripostai-je. Tu ferais mieux d'avouer tout de suite que tu as peur dans tes chausses. Qui est-ce qui dit le contraire? Fit-il en se dressant auprès de moi tout frissonnant. Chacun est brave à sa façon, pas vrai? Moi, j'ai la colique, mais ça ne m'empêche pas d'aller. Je connais des fanfarons qui chantent comme des coqs, mais qui restent en route, halent sur la mare. À mon premier effort, la chaloupe vint comme si elle eût glissé sur de l'huile. C'est à peine si la gabarre elle-même bougeait, car il n'y avait pas un souffle d'air dans le temps. « Bon signe ou non, reprit Jean, ça va être commode pour embarquer la cargaison. En plus, la gabarre ne pourra pas nous poursuivre, puisque nous aurons des rames et qu'elle n'a pas de vent. « Tu sais bien, dis-je, pour lui faire pièce, que c'est toujours ainsi avant les tempêtes. Nous en avons une sur la planche de tempête. On n'en voit pas souvent deux pareils se suivre à la queue-leu. Donne la mare. » Je lui tendis la corde et, quand il l'eut en main, il recula de deux ou trois pas le long de la balustre pour amener la chaloupe bord à bord. « Là, fit-il, elle est obéissante. Elle se colle contre le flanc comme un petit veau qui veut téter sa maman. Seulement, on ne la distingue pas bien. Laisse tomber un bout de quelque chose bien doucement pour qu'on soit sûr de ne pas jeter nos affaires à la mer en croyant les embarquer. Ça serait dommage. » Je pris au hasard un gilet de Minyahas que Jean m'avait jeté sur l'épaule avec une multitude d'autres nippes, et si vous saviez comme tout cela sentait bon le genièvre et la pipe, je me penchai hors de la galerie et je lâchai à pic. Nous entendîmes parfaitement l'objet qui tombait au fond de la chaloupe. Jean ne put retenir une exclamation de triomphe. « Va bien, dit-il. D'ailleurs, l'idée est de moi et mes idées sont toujours bonnes. On va réussir. » Avais-je conscience de la folie de notre entreprise, ou bien était-ce tout uniment parce que la pensée première de cette fuite appartenait en effet aux cousins piteux? Je ne sais trop, mais je n'y allais pas de bon cœur. « Au commencement, dis-je, ça va toujours comme sur des roulettes, c'est la suite qu'il faut voir. » J'entendis tomber un second paquet au fond de la barque. C'était une paire de culottes à l'infortuné Minyahas. « Tu la verras, la suite, » répartit Jean. « À moins que tu n'aimes mieux rester avec feu Isidore, je m'en irai bien tout seul. » L'envie de lui flanquer une mère volée me talonna d'autant plus vivement que notre bataille aurait éveillé Klotz et mis du même coup ce satané voyage dans le sac aux oublis. Mais je me bernais à dire « D'aller la nuit sur l'eau dans une coque de noix avec du bien volé, penses-tu que ça doit porter bonheur ?» Jean tenait le norrois de Minyahas suspendu au-dessus du vide. Au moment même où il le lâchait, il le rattrapa par la manche et resta tout pensif. Mais un instant après, le norrois tomba à son tour au fond de la barque et Jean me dit avec gravité « À quoi que sa garde-robe pourrait lui servir au paradis ou dans l'enfer ? Ce n'est pas volé, puisque je jure ma parole sacrée d'aller en Hollande plus tard, tout exprès, et de chercher les héritiers et de leur donner quatre fois la valeur de tout quand j'aurai fait fortune. Et si tu ne fais pas fortune ?» Le ton de Jean devint pleurard. « Tu es une racaille, » me dit-il. « Tu veux me dégoûter de mon idée ?» Il s'assit par terre et se bouchonna les yeux avec ses poings fermés en continuant. « De voler, ça ne m'irait pas du tout. Il n'y a pas plus honnête que moi. Voyons, descends dans la barque et rapporte toutes les guenilles. Nous partirons nus comme des vers. C'est bête, mais j'aime mieux n'avoir rien avec moi que d'être au milieu de l'eau, dans ce brouillard, avec la crainte que le bon Dieu ne serait pas content de ma conscience. « Et une fois chez les naturels, dis-je, tu n'auras pas la moindre des choses à leur donner pour sauver ta vie. D'ailleurs, c'est déjà volé que d'emmener la chaloupe qui vaut bien 200 francs. « Tiens, fit-il en se relevant, penses-tu qu'on pourra la vendre ?» Cela mit fin à ses incertitudes, et les nippes recommencèrent à tomber dans le bateau, qui ne bougeait pas plus qu'une charrette qu'on aurait arrêtée sous la fenêtre pour déménager un premier étage. « Monsieur Surcouf ne bavardait pas tant, » poursuivit Jean, qui s'échauffait à la besogne, « et il en a rapporté des tas de marchandises. Ose donc dire que c'était un voleur. Tiens, et tiens, pouf! Je lance d'abord les choses molles qui ne mènent pas de bruit en tombant. Pouf! ça fait un lit pour le reste. Tiens, voilà une paire de bottes. On ne l'a seulement pas entendu, à cause des paletots et du linge. Voilà le jambon, voilà le bœuf. As-tu jeté la pacotille ? Ça, c'est à nous, me répondit-il avec emphase. Ça ne me quitte pas, je me la cacherai plutôt entre cuir et chair. Il ne restait plus à embarquer que les bouteilles dorées et la dame Jeanne qui contenait notre eau. Rien de tout cela ne pouvait être lancé par-dessus bord. Tirons au doigt mouillé à qui descendra le premier, proposa Jean. Celui qui restera affalera le liquide avec une ficelle et l'autre le recevra. Il y avait du temps déjà que je n'avais songé aux dormeurs. Au moment où j'allais généreusement m'offrir pour tenter le premier la descente, l'idée d'écouter me vint. « Méfiance !» dis-je en serrant le bras de Jean, qui frissonna aussitôt de la tête aux pieds. « On n'entend plus Klotz ronfler !» C'était vrai, ni Klotz ni les autres. Nous étions environnés par un silence morne qui me glaça. Je regardais du côté où devaient être nos Hollandais. À 2 pouces de mes yeux, un mur grisâtre se dressait. Ce n'était pas l'obscurité, au contraire, la lumière de la lune blanchissait le brouillard en le pénétrant et il semblait que nous fussions au centre d'un globe en verre dépoli, tout brillant de clarté. « Il ne faut faire ni une ni deux, » dis-je très bas. « Descendons, coupons la corde et en route !» Jean me répondit par cette gémissante interrogation. « Et les avirons ?»« Nous avions oublié les avirons. »«
Où sont-ils ? » dis-je. « J'irai les chercher. »«
On marche !» balbutia Jean qui ne tenait plus sur ses jambes. « Je suis sûre qu'on marche derrière le brouillard. Les avirons sont de l'autre côté de l'habitacle. Mais tu n'auras pas le temps. »
La terreur le rendait fou. Il enjamba la balustrade pendant que je prenais mon élan pour courir aux rames. Juste à ce moment, une ombre qui nous parut gigantesque passa entre nous deux et franchit le plat-bord. En même temps, une main également monstrueuse me saisit aux cheveux et Jean, terrassé, roula sur le pont à mes pieds en gémissant. « C'est péché de voler et Dieu nous punit. Je ne le ferai plus, parole sacrée !»